dans la matinale, on vous propose un petit peu de dépaysement avec Imagine Japan. Imagine Japan qui continue de vivre, mais en format papier. Le musée d'ethnographie de Neuchâtel sort un ouvrage sur l'exposition dédiée aux 150 ans de relations bilatérales entre la Suisse et le pays du soleil levant. L'exposition principalement consacrée au corpus iconographique ramené du Japon par le Neuchâtelois Aimé Humbert en 1864, c'est vieux.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre ? Des articles inédits d'auteurs suisses et japonais consacrés à certaines pratiques politiques, économiques et culturelles japonaises de l'époque. En témoigne l'histoire de François Pergaud, un Neuchâtelois envoyé par l'Union horlogère suisse pour vendre la montre de poche au Japon. L'historienne de l'art Ariane Maradan, au micro de Yann Esler.
En 1858, les horlogers souhaitaient écouler leurs montres de poche à l'étranger. Donc on imagine des stratégies et on vise très rapidement l'Asie. L'Asie est le débouché idéal, l'endroit où on va pouvoir écouler les montres de poche. On décide d'envoyer deux hommes au Japon, Rudolf Lindau et François Pergaud, qui est un horloger loclois. C'est Rudolf Lindau qui va débarquer au Japon avant François Pergaud. François Pergaud va s'arrêter à Singapour. Donc il est chargé d'étudier l'établissement d'un comptoir d'exportation, d'abord à Singapour, puis à Yokohama. Et il quitte Singapour à l'automne 1860 et débarque à Yokohama au mois de décembre 1860. Ça a dû être le choc parce que le Japon était en pleine mutation. On est passé très rapidement d'un état féodal à un état moderne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que François Pergaud va vivre le bouleversement, le développement de Yokohama qui est passé en l'espace de 20 ans environ, d'un village de pêcheurs à une cité moderne, cosmopolite, à l'architecture occidentale, mais surtout au port commercial très très important.
Donc lui, son but quand il arrive là-bas, c'est écouler ses montres de poche. Est-ce qu'il arrive à ses fins ?
Non, il n'arrive pas à ses fins et pour une raison toute simple, c'est que le Japon, à cette époque, est dans un système horaire différent de celui de l'Occident. Donc la montre de poche occidentale n'est pas utile, elle est uniquement un objet de parure, de curiosité. Et François Pergaud aura beaucoup de difficultés à écouler ses produits, comme en témoignent les rapports qu'il envoie régulièrement à l'Union horlogère. C'est un constat d'échec et surtout il faut survivre. Comme le comptoir d'exportation au Japon ne fonctionne pas, l'Union horlogère va décider de le supprimer. En 1863, le comptoir de Yokohama ferme ses portes. Voilà François Pergaud libéré de ses obligations par rapport à l'Union horlogère. Et qu'est-ce qu'il va le faire ? Il va fonder une société d'importation et distribution de biens européens au Japon. C'est un nouveau débouché, mais qui n'est pas horloger.
Donc finalement, il sera resté là-bas ?
Alors oui, il est resté sa vie durant au Japon. C'est quand même une vie assez courte parce qu'il va malheureusement décéder en 1877. Ce système horaire japonais va être en vigueur jusqu'au 1er janvier 1873. À cette date-là, le Japon adopte le système occidental de mesure du temps. Et donc, entre son arrivée en 1860 jusqu'en 1873, il y a ces 12 années où il faudra survivre.
De poche sera finalement commercialisée en masse et se démocratisera lors du développement du chemin de fer au Japon à la fin du 19e siècle, soit 20 ans après la mort de François Pergaud.